les jardinières.
Chaque jour, l'automne nous éblouit un peu plus avec ses couleurs magnifiques. Et chaque jour, eh bien, les températures baissent un peu. Bon, sauf ce week-end où on nous annonce des 20 degrés. Ce qui n'empêche pas les jardiniers de s'occuper de leurs plantes. Et ça tombe bien, on va parler jardinage pendant une heure. Bonjour Steve.
Bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, c'est Cathiou Racine qui est avec nous. Bonjour Cathiou.
Bonjour.
Cathiou Racine, vous êtes jardinière à Delémont et guide de randonnée nature. On peut vous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux sous Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Merci.
Soyez les bienvenus chez les jardinières. Nous sommes ensemble jusqu'à 8 heures.
Les jardinières.
Dans quelques minutes, Cathiou, vous allez nous expliquer comment protéger nos plantes du froid qui arrive. Mais à part se protéger du froid, que va faire le jardinier ce week-end alors qu'on nous annonce des 20 degrés ?
Ah ben, il va prendre l'air sur sa terrasse. Non, il y a plein de choses à faire au jardin. Il y a eu un peu de vent cette nuit, donc je pense qu'il faudra nettoyer un petit peu le tour de la maison. Il y a certaines feuilles qui ont dû voler. On espère chez le voisin qu'on soit quitte de trop balayer quand même. Et puis, il y a certaines plantes qui se sont quand même bien dégarnies ces quelques derniers jours. Donc, on peut gentiment commencer de passer un peu dans l'observation aussi avant de faire quelque chose. Parce que maintenant, c'est une période où on pourra profiter d'enlever en fait tout ce qui est mort ou ce qui est sec ou peut-être cassé. Par exemple, certains arbustes ont eu pas mal de fruits, même si c'est du non comestible, et puis ça peut être un peu abîmé certaines plantes. Donc maintenant que c'est dégarni, on a vraiment une belle vue d'ensemble, et puis on peut gentiment tailler en fait ce qui est mort ou abîmé. On va pas tailler ce qui est frais parce que c'est un peu trop tôt. Mais par contre, on va prendre le temps de donner peut-être un équilibre à la plante et puis de couper ce qui est cassé. On pourra aussi gratter un peu le sol, regarder s'il y a beaucoup de mauvaises herbes, commencer à désherber un peu parce que les mauvaises herbes dépérissent aussi un petit peu. Et puis éventuellement faire un apport au sol avec du mulching ou bien des écorces, des choses comme ça. Donc là, on fera plutôt quelque chose pour rendre le visuel de notre jardin joli.
Un peu de poutre, on l'a compris, merci Cathiou. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h et vous allez répondre également aux questions de nos auditeurs ce matin, comme chaque matin d'ailleurs, chaque samedi matin dans les jardinières. Je vous rappelle, si vous voulez nous contacter ou nous poser vos questions, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez soit nous joindre en direct et nous appeler dès à présent, 0900 70 20 20, c'est 36 centimes la minute, comme ça ben, on peut aussi discuter de vive voix avec notre invité. Sinon vous pouvez utiliser deux autres systèmes, soit par SMS en envoyant votre message au 939, vous mettez juste jardin au début de votre texto, J-A-R-D-I-N hein, évidemment, ensuite vous mettez votre question, votre prénom et puis on y répondra dans l'heure. Et puis sinon il y a le formulaire en ligne disponible sur notre site internet où là vous pouvez même ajouter une photo à vos propos.
Et dans la suite des jardinières, Cathiou, vous allez nous parler de l'hivernage des plantes, histoire de retrouver nos végétaux en pleine forme au retour du printemps.
7h, 8h, les jardinières.
L'hiver n'est plus très loin, il va être temps de sortir écharpes, bonnets, gants. Alors si pour nous c'est plutôt facile de supporter les températures négatives parce qu'on a une armada d'artifices pour se protéger, c'est pas forcément le cas pour nos plantes. Cathiou Racine, notre invitée jardinière à Delémont, va tout nous expliquer pour que nos chères plantes passent l'hiver sereinement. Cathiou, à quel moment est-ce qu'il faut penser à hiverner ces plantes ?
Alors, il faudrait y penser un peu plus tôt que lorsqu'on y pense vraiment. En fait, hiverner ces plantes, ça ne veut pas juste dire les mettre à l'intérieur et puis ou les protéger du froid, ça veut dire aussi s'en occuper bien avant. Donc, chez nous, si on parle du bas de la vallée de Delémont, par exemple, c'est quelque chose qu'il faudrait penser maintenant, voire il y a déjà 2 semaines en arrière, parce qu'il y a quelques opérations à faire avant de les rentrer. Il faudrait, par exemple, si on a, je prends l'exemple d'un citronnier qu'on a sur sa terrasse, le citronnier, on va le rempoter avant de le rentrer, parce que c'est un petit peu comme si nous, on est malade et puis qu'on nous met au lit, ben, faudrait peut-être un petit peu nous soigner avant de nous mettre au lit, quoi. Donc voilà, il y a certaines opérations qui sont à faire avant de rentrer les plantes ou avant de les protéger. Et puis ça, il aurait fallu le faire soit maintenant, c'est un peu le dernier moment, où il y a 2-3 semaines en arrière.
Qu'est-ce qu'on doit faire à part rempoter ces plantes ?
Alors, il y a, par exemple, le nettoyage. Si on a des plantes qui ont été tout l'été sur la terrasse ou dans le jardin, on va nettoyer les feuilles parce qu'il y aura eu plein de choses dessus, entre la pluie, la poussière, etc. Donc, on va nettoyer les feuilles pour leur permettre d'avoir la possibilité d'avoir une bonne photosynthèse, parce qu'on va leur faire un choc quand même en les rentrant. Il y a aussi le rempotage, justement, qui n'est pas juste un rempotage. Allez, vas-y, je prends un petit pot, je change ma terre, puis je mets la plante dedans. Il faudra mettre un drainage au fond de la plante pour éviter que les rares arrosages de l'hiver ne la gorgent d'eau et ne la noient. Il y aura vraiment beaucoup de choses à penser, et puis surtout faire ça avec beaucoup de soin pour que la plante puisse vraiment passer un hiver serein.
On doit faire ça pour toutes les plantes. Toutes les plantes ont besoin d'être protégées du froid.
Alors, plus on va de l'avant dans nos régions, moins on a besoin de les protéger. On s'en rend vraiment compte pour ceux qui ont des jardins ou bien qui sont passionnés par ça depuis de nombreuses années. Ça change, le climat change, ça c'est pas que des histoires. Après, toutes les plantes n'ont pas besoin. Il y a certaines plantes qui auront la nécessité d'être juste changées d'orientation autour d'une maison, par exemple. Certaines plantes se plaisent très bien en pot. On a notamment maintenant les poivriers, qui viennent des plantes d'ornement qui sont très, très à la mode, qui ont besoin, eux, d'être simplement déplacés l'hiver. Par exemple, on les mettra à l'est, contre une paroi, là où il y aura le soleil du matin en hiver, et puis où il y aura très peu de changements, en fait, peu de changements de température entre le matin, le milieu de journée et le soir.
Alors là, vous avez parlé qu'on peut les déplacer. On va encore protéger nos plantes en pot. Par exemple, elles sont sur un balcon ou une terrasse. Un balcon, ben, on ne peut pas déplacer le balcon à l'est. Hein,
mais chez le voisin.
Voilà, ben, je ne sais pas si il veut bien s'occuper de nos plantes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces plantes en pot pour les protéger?
Alors, il faut faire attention. On a tendance à penser qu'il faut protéger en fait ce qui est visuel. Hein, je reprends mon citronnier qui est sur le balcon à Mylène, par exemple. Il est tout beau, puis elle se dit, ben voilà, c'est l'hiver, je vais protéger mon citronnier. Alors elle va acheter ce qu'il faut au magasin, et puis elle l'emballe en fait. Elle emballe ce citronnier, elle le momifie, on va dire. Elle met tout ça là autour, puis ça, en fait, c'est juste tout l'inverse de ce qu'il faut faire. La partie la plus importante dans une plante qui est le plus sensible, c'est toujours les parties basses, c'est-à-dire ce qui est sous la terre. En l'occurrence, là, dans un pot, évidemment, il y aura peu de terre. Donc, on devra vraiment protéger ce pot, bien l'isoler du froid, mettre soit du papier bulle, de la toile de jute, du Sagex éventuellement. Voilà, il faudra vraiment protéger ce bas. Sur le dessus du pot, par exemple, ou si c'est des caissettes, on pourra mettre des branches de sapin, de manière à ce qu'il y ait quand même des échanges entre l'air et la terre qui puissent se faire pour l'évaporation de l'eau. Donc voilà, c'est vraiment le bas qu'il faut protéger, surtout pas le haut.
Il y a effectivement aussi d'autres plantes qui, elles, ne peuvent pas être déplacées. On va en parler dans quelques minutes, le temps de marquer une petite pause dans les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
L'hiver arrive gentiment mais sûrement, et ce matin on prend soin de nos végétaux et on les prépare pour la saison froide. Il y a quelques minutes on a parlé des petits végétaux, on va prendre les végétaux un peu plus grands. On a parlé des plantes en pot, Katiou, qu'on peut mettre qu'on a sur son balcon, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas déplacer, qu'on ne peut pas mettre à l'est comme vous nous l'avez dit. Comment on fait avec ces gros pots?
Ces gros pots, oui, il y a même des plantes en pleine terre. Maintenant, on voit de temps en temps, ça vient gentiment, des palmiers qui sont plantés chez nous en pleine terre, ou des bananiers. Là, on va procéder vraiment différemment, mais là, c'est vraiment un job incroyable. Il faudra évidemment de nouveau protéger les parties basses. Donc là, vu que ça sera, je parle de la pleine terre, hein, par exemple, on va mettre une couche d'isolation sur le sol. On pourra mettre des écorces, du sapin, des branchages, des feuilles, etc. Tout ce qu'on trouve qui est sec et puis qui laissera passer justement ces échanges d'air et d'eau. Et puis ensuite, si on a notre palmier, je ne sais pas, qui fait 2,50 m, on va devoir construire autour de ce palmier une protection, par exemple avec du Sagex. Donc en fait, on va lui faire une maison qui ne touchera pas les feuilles, bien sûr, et qui ne toucheront pas le tronc non plus. On va lui construire une maison, et puis le haut, il faudra laisser C'est difficile de vous expliquer. En fait, il faudrait imaginer un carré de Sagex autour de la plante.
Une armature, une architecture.
Exactement, ouais. Et sur le haut, par exemple, mettre un parasol ou un parapluie, de manière à ce que l'eau ne puisse quand même pas trop rentrer à l'intérieur, parce que sinon, il y aura un risque de moisissure. Mais par contre, justement, que la plante ne soit pas vraiment enfermée dans un contexte où elle pourrait soit avoir vraiment trop de gel, parce qu'en fait, il gèlerait à l'intérieur, ou alors trop d'humidité. En fait, il faut qu'il puisse toujours y avoir ces échanges entre le soleil, l'humidité, l'air, etc. Donc, on fera vraiment une armature autour. Et puis, dessus, mettre un parasol ou quelque chose qui couvre un peu cette plante, en laissant quand même 20 ou 30 cm d'espace pour qu'il puisse y avoir de l'air.
Et une fois qu'on a bien barricadé et blindé nos plantes, est-ce qu'il faut encore les arroser du coup pendant l'hiver ?
Alors, celles qui sont en pleine terre, ça ne sera pas nécessaire parce que la pluie qui tombera autour, ben, bien sûr, ira dans le sol et puis les racines s'occuperont de faire leur travail. Par contre, pour les plantes en pot, il faudra leur donner encore de l'eau, mais il faut bien imaginer que dans les pays où elles sont indigènes, ben, si on prend de nouveau notre palmier par exemple, il n'aura pas une période où il n'aura plus du tout d'eau. En fait, les arrosages seront très espacés avec la pluie. Donc, on va dire, si on reprend notre citronnier qu'on a mis en hivernage durant octobre jusqu'à peut-être février, on va lui donner peut-être de l'eau une fois par mois. Mais là encore, ça reste vraiment de l'observation, de voir quand la feuille commence un peu de se flétrir. Enfin, on voit tout de suite quand il y a quelque chose qui se passe, il faut être très attentif. Alors là, on va lui donner de l'eau et puis on va vraiment ralentir ce processus pour le mettre en hivernage. La plante doit se reposer, en fait.
Merci beaucoup, Cathy. On a encore 2-3 questions à vous poser sur l'hivernage des plantes. On y reviendra juste après un peu de musique, la météo et l'inforoute.
7h, 8h. Les jardinières.
Le samedi, entre 7h et 8h, ce sont les jardinières qui accompagnent vos débuts de journée. Ce matin, c'est Cathy Racine, jardinière et guide de randonnée nature à Delémont, qui répond à nos questions jardinage. Et vous pouvez suivre son compte sur les réseaux sociaux sous le nom de Rando Vous avec Soi-même.
On va continuer avec les arbres fruitiers, Cathieu. On a des questions à ce propos-là. Est-ce que les arbres, genre des fruitiers, ont également besoin de soins particuliers pour passer l'hiver ?
Alors oui, bien sûr, même s'ils sont très acclimatés chez nous, il faut savoir qu'ils n'auront pas besoin d'être protégés contre le froid. Mais par contre, ils auront besoin plutôt d'être préparés contre les intempéries de l'hiver. Donc on va leur faire quelques apports. Par exemple, on va leur donner un engrais. On va leur donner un petit peu de force, comme nous on fait des cures de vitamines. Et bien, chez eux, on va leur faire un petit apport d'engrais. Attention, il faut vraiment prendre des engrais spéciaux qui sont des engrais d'automne. Pourquoi ces engrais d'automne ? Parce que l'engrais a tendance à se dégrader avec le gel. Et ces engrais d'automne sont vraiment construits et conçus pour qu'il n'y ait pas de dégradation avec le gel. Donc on va y mettre un engrais d'automne. On va aussi en profiter, comme j'ai dit avant, pour enlever tout ce qui est abîmé ou ce qui est sec. À savoir que toutes les branches qui sont abîmées vont potentiellement attirer des petits ravageurs ou des maladies. Donc on va prendre le soin d'enlever tout ça pour éviter. On appelle ça de la prévention. Donc ça, c'est super à faire avant l'hiver. Et puis, on pourra faire aussi des petits apports de paillage sur le sol pour faire aussi son jardin un petit peu joli pour l'hiver. Parce que ça peut être joli en été, mais ça peut aussi être joli en hiver.
Et malgré tous vos bons conseils, Cathy, on imagine le scénario catastrophe. On n'a pas pris le temps de protéger des plantes et elles sont exposées au froid trop longtemps. Comment est-ce qu'on traite les dégâts du gel ? S'ils peuvent être traités, bien sûr.
Alors, ça dépend un petit peu des gelées. Si c'est des légères gelées, il y a une chose qu'il faut être vraiment faire avec précaution. Si la gelée, je ne sais pas, disons, il a fait un moins 5 sur un citronnier, ce n'est pas vraiment un problème. Si ça a été une fois, on peut rentrer notre plante et puis voilà. Si on l'a vraiment oublié puis qu'on voit que les dégâts du gel, en fait, ce sont des brûlures. Donc on verra bien que les feuilles sont brûlées. Là, il faudra faire attention de surtout pas faire une transition trop brusque. Déjà, de ne pas se dire, oh là là, je l'ai oublié dehors vite, je le mets dans mon salon. Donc là, on va juste lui mettre un coup derrière la tête. Donc on va faire une transition pour rentrer la plante progressive, pour pas qu'il y ait un trop grand choc. Et là, ben justement, on va devoir rempoter, tailler, enlever tout ce qui est abîmé, mettre de l'engrais. Surtout faire attention de ne pas trop arroser. Parce que la plante, le but, si elle a été abîmée, c'est qu'elle se repose et non pas qu'elle reparte en végétation parce qu'elle n'aura jamais assez de force pour repartir. Donc on va plutôt lui préparer son petit lit en lui faisant toutes les choses dont elle a besoin pour bien dormir. Et puis on va la mettre dans un endroit où elle pourra vraiment se mettre, on appelle ça le repos hivernal, c'est pas pour rien, la plante doit se reposer.
Alors, on parle beaucoup des plantes en extérieur, mais les plantes en intérieur, elles passent aussi l'hiver, elles ont aussi une période où elles doivent se reposer. Pourtant, elles sont dans un climat qui est tempéré.
Trop tempéré. Beaucoup trop tempéré.
Peut-être un peu moins cet hiver avec les restrictions énergétiques.
Les plantes se porteront bien, c'est une bonne chose au moins.
Mais donc, il faut quand même les mettre en mode hiver.
Alors, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est quand nos chauffages se mettent en marche. Les chauffages au sol sont très, très mauvais pour les plantes. On a tendance à... Moi, par exemple, j'ai quelques plantes qui sont posées à la maison au sol à l'été. Donc là, il faudra vraiment les dégager de ce contact direct avec le chaud. Parce qu'encore une fois, on va faire travailler ces racines qui n'aiment pas du tout être travaillées ni par le chaud ni par le froid. Donc, on va dégager ces plantes du sol. Toutes les plantes qui sont sur des rebords de fenêtres, pour ceux qui ont encore des chauffages au mur, on va les enlever de ces rebords de fenêtres parce qu'il fera beaucoup trop chaud. Et puis surtout, on va prendre la peine aussi de les nettoyer, parce qu'il y a toujours de la poussière sur nos plantes, puis ça c'est quelque chose qu'on ne pense pas à faire, pour qu'elles puissent bien échanger, faire ces échanges gazeux. Et aussi, on va mettre de l'engrais, et on va aussi peut-être un petit peu réduire cet arrosage, parce qu'il y aura toute une histoire de photosynthèse qui va se réduire avec la luminosité, etc. Donc on va un peu réduire. Et puis voilà, tout se passera bien. Et surveillez les ravageurs, parce que le chaud de nos chauffages amène beaucoup de ravageurs sur les plantes d'intérieur.
Merci beaucoup, Katiou, pour vos précieux conseils. On sait désormais quoi mettre en place pour que nos végétaux passent l'hiver au mieux. Et si ils claquent, ça sera notre faute.
On va passer à la deuxième partie des jardinières. C'est dans un instant, on fait les questions-réponses, ma chère Mylène.
Exactement. On attend vos téléphones, toujours au 0900 70 20 20, ou un SMS, vous tapez jardin, un espace. Votre question, vous nous envoyez tous au 939, ou bien sûr le formulaire disponible sur notre site, avec la possibilité de nous envoyer une photo.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Vous pouvez poser vos questions en direct, n'est-ce pas, Steve ?
Exactement, on a eu un appel au 0900 70 20 20. Vous pouvez toujours nous appeler pour nous joindre et poser vos questions directement à notre invité, Katiou Racine, jardinière à Delémont, qui est avec nous. Nous avons d'ailleurs un premier appel. Il s'agit de Roland du Locle. Bonjour, Roland.
Bonjour.
Roland, je crois que vous aviez un problème de taille.
Exactement.
Alors, dites-nous peut-être la plante que vous avez et quelles sont vos questions par rapport à cette plante.
Alors, j'ai mis, c'est ce printemps que je les ai plantées, c'est au cimetière, c'est des Potentilla fruticosa.
Ok. D'accord. Et quelle est votre question par rapport à ces plantes ?
Et d'après les deux jardiniers des grands magasins qui est ici autour où je les ai achetées, une personne me dit qu'il faudrait les tailler maintenant, et l'autre personne me dit c'est mieux de les tailler au printemps.
La question est donc ouverte, vous demandez l'expertise et le choix final appartient à vous, Katiou.
Oh là là, quel choix, quelle responsabilité. Alors moi je vote pour la deuxième personne. La potentille, c'est une plante qui fleurit sur les pousses de l'année. Les pousses qui vont donc se faire au début de l'année.
Oui,
donc on va tailler cette plante en fait autour du mois de janvier, comme ça. On va lui donner la possibilité d'être prête pour démarrer correctement au printemps. Donc on va lui enlever, comme j'ai dit avant, tout ce qui est mort, tout ce qui est sec. Et puis on va la rabattre ou la former. Ça dépend un peu de la taille en grandeur de la plante. Donc on va les tailler, donner une forme. Si c'est au cimetière, on ne va pas laisser venir ça trop trop grand, évidemment. Et puis après, au printemps, elle va faire ses nouvelles pousses et elle va fleurir sur ses nouvelles pousses. Donc en fait, on va favoriser la production de nouvelles pousses en la taillant au mois de janvier.
Janvier,
le printemps arrive assez vite.
Pas mettre de neige ici, hein.
Ouais, c'est vrai, je ne pense pas à ça. Alors allez chez vous fin février.
Alors, Madis, et puis, comme elle est là maintenant, pour la protéger ou bien pour la laisser comme elle est là?
Non, vous pouvez la laisser. Il faudrait juste peut-être mettre quelque chose justement au sol pour protéger les racines. Si vous avez possibilité de mettre un peu des branches de sapin, en plus, ça fait joli quand c'est au cimetière, c'est un peu plus beau pour l'hiver. Et puis, comme ça, on protège bien les parties basses et puis elle va passer l'hiver sans problème.
Impeccable.
Voilà.
Eh ben, tout va bien. Bah, avec grand plaisir, Roland. Merci de nous avoir appelés. On vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.
0900 70 20 20. Si vous voulez encore aussi nous poser vos questions, il y a toujours de la place. Je vous propose, Mylène, qu'on prenne les questions qui sont arrivées par les voies un petit peu
SMS-iales.
Ouais, les SMS ou par formulaire.
On va commencer par cette question reçue de Sonia et son fils Florian de Glovelier qui nous parle de son pommier. Mon pommier a produit très peu de pommes sucrées, à tel point que mes litres de gouttes sont en diminution. Ça va être difficile pour passer l'hiver. Y a-t-il moyen d'y remédier pour l'année prochaine ?
Surtout sans chauffage, hein, comment on va se faire chaud, c'est la question. Très peu de pommes sucrées, c'est un peu une question qui m'interpelle parce que d'habitude, est-ce qu'ils ont eu beaucoup de pommes qui n'étaient pas sucrées ou je ne sais pas trop. Alors je vais essayer de répondre un peu comme je peux. J'imagine que son pommier n'a pas produit beaucoup de pommes en général, ce qui est assez surprenant parce que cette année, c'était vraiment une année à fruits. Je pense que l'arrosage y est pour beaucoup cette année. La sécheresse a fait beaucoup de dégâts et aussi de restrictions dans l'épanouissement des plantes. C'est clair, on n'avait pas le droit d'arroser, donc on ne va pas arroser parce que c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand on ne peut pas faire d'apport d'eau, qu'il n'y a pas suffisamment d'apport d'eau de par la nature, eh ben évidemment, les fruits restent plus petits et peuvent moins s'épanouir et il y a évidemment moins de sucre dans les fruits, ça c'est une logique implacable. Donc voilà, moi j'imagine que c'est vraiment ce manque d'eau qui a posé un problème. Et puis je vais pas vous dire d'arroser parce que je vous dirais de faire ce que la loi nous a interdit, mais ça serait vraiment la solution de pouvoir faire un apport d'eau, récupérer de l'eau de pluie à quelque part et puis faire des réserves pour l'été, je sais pas. Mais c'est vraiment l'arrosage qui est en cause pour ce genre de problème.
Merci beaucoup. Cathy ou Steph, de votre côté, ça sonne ?
Oui, exactement. Le standard crépite et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Desbaillards. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Jean-Claude, posez-nous votre question. Le standard est ouvert. Cathy ou notre invité vous écoute.
D'accord. Alors j'ai deux questions en réalité. J'ai un myrtillier que j'ai acheté en pot qui commence à perdre ses feuilles. Est-ce qu'il faut le rentrer maintenant, puis est-ce que je peux l'hiverner dans une véranda ?
Alors, le myrtillier ne supporte pas de rester en pot. En fait, il devrait être en pleine terre.
Donc, oui, de la terre de bruyère.
De la terre de bruyère, exactement. De la terre acide. Hein, donc, on pourra faire soit un mélange de terre de jardin avec de la tourbe, ou alors de la terre de bruyère. Il faut creuser vraiment un très grand trou. Si, par exemple, vous avez un pot qui fait à peu près 20 cm, il faudra creuser 40 cm de diamètre et la même chose de profondeur. Vraiment faire un beau lit, comme j'appelle ça, à ces plantes avec de la terre acide, et puis le mettre en pleine terre. Parce que si vous le gardez en pot et que vous le rentrez au printemps, je donne pas cher de sa peau. Je pense qu'il sera, fichu.
D'accord.
Ouais, si vous pouvez le faire,
parce
c'est bien.
Oui, j'hiberne aussi dans ma véranda. J'ai 3 bananiers, un citronnier, un mandarinier. Mm-hmm. Ils passent assez bien l'hiver, mais je dois les arroser parce que la température ne descend pas en dessous de 10 degrés.
D'accord, oui. Donc vous les gardez.
C'est pas chauffé, mais il y a beaucoup de lumière.
Ouais. Alors eux, ils sont au paradis, là où vous les mettez, mais par contre, le myrtillier, lui, sera juste en enfer. Donc, donc il faut vraiment essayer de le planter le plus rapidement possible, lui faire vraiment son habitat naturel. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer pour cet hiver.
Jean-Claude, vous aviez une deuxième question.
Oui, voilà. J'ai ramené des boutures d'hibiscus du Maroc qui ont bien grandi, et puis maintenant, j'ai des branches de passé un mètre. Je voulais savoir, pour les rabattre, si je pouvais couper toutes les branches d'un coup ou faire une par une pour pas qu'ils s'affaiblissent.
Cet hibiscus, il est en pot, donc, je suppose.
Oui, c'est en pot.
C'est en pot, oui.
Hibiscus marocain.
Ok, oui, donc pas de chez nous. Donc là, c'est quelque chose qu'il faudra faire assez gentiment aussi. Vous pouvez rabattre, je dirais déjà, la moitié des plantes, parce que si elles font un mètre de long, ce qui serait bien, c'est qu'elles se ramifient maintenant. Donc en fait, en les taillant, en les raccourcissant, vous allez provoquer un choc, entre guillemets, mais qui n'est pas un mauvais choc, à la plante, et puis tous les bourgeons qui sont en latence sur ces tiges vont faire des ramifications. Donc ça va donner à cette plante un peu un effet buisson, comme ça, enfin comme ils sont là-bas d'ailleurs. Et puis, parce qu'il y a combien de branches, à peu près, comme ça.
Ou 6 à 7 par plante, j'en ai deux d'un côté de l'autre.
Alors faites déjà 2-3 branches, vous rabattez légèrement, elles vont se ramifier, puis après vous faites les suivantes. Une fois qu'elles ont démarré en ramification, vous pouvez passer aux suivantes, sans problème.
Oui, c'est ce que je pensais. Je les rabats combien du tronc? 30 cm ou 20 ou...
Ouais, il faut laisser 3-4 yeux, en fait. Et puis, il faut prendre un œil qui donne sur l'extérieur de la plante, pour pas que les branches poussent à l'intérieur. Voilà.
D'accord.
Il faudra y aller à l'œil.
Je vous remercie.
Avec grand plaisir. Merci à vous, Jean-Claude.
Bonne journée. Bon week-end.
On a reçu une question de Dominique qui nous pose cette question sur le millet qui a envahi une petite surface de gazon, environ 40 mètres carrés. Comment l'éliminer et à quelle saison? Plutôt en automne, plutôt au printemps?
Alors, si c'est déjà là, il faudra plutôt l'éliminer au printemps. Il existe des produits dans les commerces spécialisés qui sont des produits chimiques, mais plus tant chimiques que ça, parce que la loi a aussi bien fait de l'ordre à ce niveau-là. Donc, s'il veut vraiment éliminer son millet, il faudra qu'il passe par un traitement chimique. Maintenant, un petit conseil pour éviter que le millet vienne, parce que c'est très, très facile à faire. En fait, le gazon, quand il pousse au printemps, qu'il reprend vie, il faut bien localiser les endroits où il y a des trous, en fait, où ça n'a pas repoussé. Et puis, c'est là que le millet viendrait s'installer s'il pouvait venir. Donc, il faudrait gratter un peu ces surfaces, ressemer. En fait, il faudrait densifier le gazon. Hein, plus le gazon est dense, moins il y aura de millet. Donc, on va ressemer, on va arroser, on va mettre de l'engrais, on va vraiment favoriser la pousse de ce gazon pour que le millet ne puisse pas s'y installer. Mais là, en l'occurrence, vu que lui, il a déjà le millet qui est installé, il faudra au printemps, c'est autour du mois de mai, comme ça, c'est assez précis les traitements, qu'il aille chercher du produit pour traiter son gazon.
On termine avec une question de Marianne de Vezin dans la Broye, à 500 mètres d'altitude, qui a un problème avec son noyer qui était un peu tout malingre cette année. Et quand elle a regardé au pied de son arbre, elle a vu que l'écorce se soulevait, qu'il y avait des nuisibles. Elle se demande comment elle peut traiter tout ça et qu'est-ce qu'elle peut faire pour le sauver, un arbre qui est quarantenaire.
Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que en fait on a reçu une photo, donc j'ai bien pu voir ce qui se passe. C'est un petit ravageur qui se met sous l'écorce qui s'appelle le scolyte, et puis en fait il va dans la première partie de l'écorce pour y habiter, en fait pour se reproduire, pour pondre ses œufs, etc. Donc en fait tout pendant qu'il est en reproduction et en invasion, si on veut bien, on ne s'en rend absolument pas compte. Et puis tout d'un coup, ben, on voit que notre arbre végète, parce que c'est exactement ça. L'arbre ne meurt pas, il n'est pas vraiment performant, il est juste en végétation, voilà, comme ça, il se laisse un peu aller. Et c'est généralement un petit peu tard, parce que ça a déjà bien colonisé, et malheureusement, il n'existe aucun traitement contre cette bestiole. Ce qu'il faudra qu'elle fasse là, selon la photo que j'ai vue, c'est qu'elle enlève encore une vingtaine de centimètres d'écorce en dessus de la plaie, qu'elle nettoie bien ça. Et puis, il faudrait faire un pansement. Il existe des pansements dans les commerces aussi pour panser les plaies. C'est comme une espèce de peinture qu'on met dessus. Et puis, qu'elle enlève tout le bois mort qui est autour. Ça, c'est vraiment important.
Merci beaucoup, Katiou, d'être avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes jardinière à Delémont et aussi guide de randonnée nature. D'ailleurs, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux sous vos comptes. Rendez-vous avec soi-même. Passez un bon week-end. À très bientôt.
Merci. Bon week-end à vous.
Merci. Et puis, Steve, vous serez là la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Et ça sera Olivier Ribaud, paysagiste à Keuf, qui répondra aux questions des jardinières. Bon week-end et à bientôt.
Au revoir.
7h, 8h, les jardinières.